Alors, nous allons faire la lecture premièrement de 1 Timothée chapitre 2. Nous allons débuter au verset 8, bien que ce verset a déjà été couvert dans la première série. Et de toute façon, ça me donnera l'occasion d'introduire un peu le contexte du passage. Et par la suite, nous allons donc prier. Je vais à nouveau prier pour remettre le temps de prédication dans les mains du Seigneur d'une façon particulière. Et puis, par la suite, nous allons y aller pour une exposition du passage. C'est-à-dire que mon but, c'est simplement de mettre devant vous ce que ce texte-là nous enseigne. Et je laisse aussi à la direction de l'Esprit de parler à chacun de vos cœurs, comme il veut le faire. Mais aussi, c'est à vous d'exercer le discernement à travers ce qui est enseigné. Soyez des Béréens. Vous savez, vous comprenez ma métaphore, hein? Soyez comme les chrétiens de Bérée qui examinaient. S'ils ont osé examiner ce que Paul disait, n'ayez pas peur d'examiner ce que je dis. Hein. N'ayez vraiment pas peur, faites-le au contraire. Alors, lisons ces versets 8 à 15 plutôt du chapitre 2 de 1 Timothée. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. De même aussi que les femmes se parent d'un costume décent avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d'or, ou de perles, ou d'habillements somptueux, mais par de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, et puis Ève. Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme, ayant été trompée, est tombée dans la transgression. Mais elle sera sauvée en enfantant si elle persévère dans la foi et l'amour et la sainteté avec modestie. » Vous voyez le passage? Vous comprenez pourquoi ce passage pourrait, même dans certaines assemblées, être mal reçu? Je sens que certains pourraient même se dire « Ah non, il ne va pas parler sur ce sujet. Il ne va pas nous parler encore du rôle de la femme dans l'Église locale et puis etc. » Non, mon but, ce n'est pas encore de parler d'un sujet, c'est simplement d'exposer ce texte qui fait partie de la parole de Dieu. Alors, prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es si bon, si grand. Merci pour ta parole. C'est là notre trésor, mais aussi notre autorité, Seigneur, en matière de foi et de conduite. Nous voulons, Seigneur, baser tout ce que nous croyons sur ta parole et tout ce que nous faisons. Seigneur, nous comprenons à quel point ta parole aujourd'hui, elle est rejetée même par des croyants ou des soi-disant croyants. Ces passages sont remis en doute, sont disputés ici et là. Et dans le monde, on a depuis longtemps rejeté, il me semble, ces distinctions fondamentales dans la création. Nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à marcher à contre-courant dans ce monde, afin d'honorer ta parole et t'honorer par-dessus toute chose. Seigneur, parle à nos cœurs à travers ce texte. Affermis-nous, réponds à nos questions, fais-nous du bien, et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Déjà, au départ, je me suis dit, de quelle manière on pourrait titrer cette section-là? Quel titre on pourrait donner qui serait un bon résumé de ce que Paul veut parler? Et je crois qu'il touche à trois points en réalité. Et c'est un peu ce que je vais faire à travers l'exposition du passage. Donc, regardez le texte sous trois points, les trois points principaux que Paul développe ici. Le premier point, ce sera la tenue de la femme chrétienne, et je dis bien de la femme chrétienne, le rôle de la femme chrétienne et le témoignage de la femme chrétienne. Je pense que c'est ce dont Paul parle ici. Et il le fait avec autorité apostolique. C'est-à-dire, vous savez, Christ a donné à ses apôtres, incluant Paul plus tard, bien qu'il ne soit pas du nombre des 12 originaux, mais il a donné autorité à ses apôtres pour qu'ils enseignent sa parole, pour qu'ils puissent instruire l'Église. Donc, dans les lettres apostoliques et ici dans la lettre de Paul, nous avons le message du Seigneur, bien sûr. Et c'est donc avec autorité que Paul écrit ce passage et même qu'il s'exprime quelque part. Dans la première section de ce chapitre 2 que nous n'avons pas regardé ensemble, mais dont nous avons lu la conclusion, Le verset 8 est la conclusion, en réalité, des 7 premiers versets. Je trouve dommage qu'on ait dans nos Bibles, même dans la Bible d'Arby, une marque de paragraphe. Parce que je ne crois pas que Paul finit au verset 7 sa discussion. Ça termine plutôt au verset 8 et ça continue dans le verset 9, mais en passant du sujet de la prière par les hommes, il se dirige maintenant vers la place et le rôle de la femme chrétienne à travers la société, mais aussi dans l'Église, évidemment. Et le verset 8 est simplement sa conclusion des 7 premiers versets. Paul, il a insisté que quand l'Église est réunie en tant qu'Église, que ce seraient les hommes qui devraient avoir la responsabilité de prier. Je trouve intéressant que l'apôtre Paul, il sait très bien utiliser les différents mots grecs. Il y a principalement deux mots pour homme en grec. Il y a aner et il y a anthropos. Anthropos, c'est le terme qu'on va utiliser pour parler de l'homme en tant qu'être humain. Et donc, il peut être inclusif pour ce qui est de la femme. Parfois, avec le mot homme, il est aussi question de la femme dans certains passages. Je crois qu'ici, l'apôtre Paul choisit volontairement ce terme « aner » pour « homme » qui signifie « mâle » en réalité, pour dire « voilà, la responsabilité devrait revenir aux hommes de prier ». Quand on est réunis en assemblée, j'entends, hein, on peut être réunis, par exemple, dans un foyer où on est quelques familles chrétiennes, puis on décide à la fin de la soirée de terminer par la prière. Ben, on peut chacun de nous prier. Les sœurs aussi seraient invitées à prier dans un contexte comme celui-là, tout en respectant les convictions personnelles, parce que certaines sœurs ne vont pas prier tout simplement en présence d'hommes. Mais ça devient une conviction personnelle à ce moment-là, je crois, parce que ici, Paul parle de l'Église réunie. Et on le voit dans le chapitre 3, au verset 14, que c'est dans un contexte d'assemblée dont il parle en disant « Je t'écris ces choses espérant me rendre bientôt auprès de toi, mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. » Donc, quand l'Église se réunit ensemble, ce devrait être les hommes qui prennent la responsabilité de conduire l'assemblée dans la prière. Maintenant, vous voyez bien que dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, où on voit l'Église se développer, il y a des pistes à suivre ici et là. On a quelques indices qui nous indiquent de quelle façon l'Église fonctionnait, mais il y a quand même peu qui est dit. Donc, il y a une certaine marge de manœuvre que nous disposons, que nous possédons, sur la façon de faire les choses. Mais par contre, ça c'est la forme. Mais pour ce qui concerne la doctrine, et comment spirituellement les choses devraient être faites, nous avons des pistes très claires comme ici. Donc, on ne nous dit pas précisément de nous réunir à 9h30 le dimanche matin dans le Nouveau Testament. C'est une façon de faire qui est très commune, répandue dans le monde, et puis qui s'y est très bien à notre situation. Mais voilà, on n'a pas tellement d'indications si claires. Par contre, comment devrait fonctionner une assemblée qui est réunie en assemblée? Les indications sont beaucoup plus claires. Je crois que nous avons une certaine liberté de décider quand nous devons nous réunir en assemblée. Je ne sais pas si ça se fait ici, mais au Québec, dans les années 70, 80, 90, par là, mais depuis le début des années 2000, on entend très peu ça. En fait, on ne l'entend plus. Mais on entendait parler de réunions formelles et informelles. Est-ce que vous utilisiez un peu cette démarche-là chez vous? Je ne sais pas. C'était les réunions d'église qui étaient formelles, ça c'est quand on était réunis ensemble pour le culte, soit pour la prière, la prédication, l'adoration, le repas du Seigneur. Mais les réunions qu'on appelait informelles, ce sont des réunions qui pouvaient avoir lieu dans le local de l'Assemblée, parce que c'est simplement un local ici, mais qui étaient informelles, que ce n'était pas une réunion de culte de l'église. C'était simplement pour, par exemple, faire des partages missionnaires, avoir des cours, par exemple, des périodes d'enseignement, toutes sortes d'activités chrétiennes qu'on appelait informelles. Parfois même, on écoutait les films de Billy Graham. Ce sont les prédications de Billy Graham qui avaient été traduites en français. Puis on projetait des prédications de Billy Graham à l'Assemblée, puis on disait aux gens, venez voir ça. Ou des biographies comme Johnny Erickson, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai effectivement constaté que ça avait tombé quelque part, ça. Pardon pour le dérangement, mais voilà, c'était ce qu'on appelait chez nous les réunions informelles. Maintenant, on n'a plus tellement ça. Et puis, il y en a qui ont réagi en disant, « Ah, la Bible ne parle pas de réunions formelles, informelles. » C'est vrai. Mais on peut quand même faire une distinction parce que il y a des moments où on décide de se réunir en assemblée et quand on le fait pour l'adoration, pour la prédication ou la prière, eh bien, on devrait suivre les recommandations de l'apôtre Paul, entre autres, et puis voilà, du Seigneur lui-même à travers ses apôtres. C'est dans ce sens-là que l'apôtre s'exprime avec un verbe qui est très fort en grec, « boulamai », qui signifie « je veux ». En fait, ce verbe est tellement fort dans la volonté ou dans l'expression de la volonté qu'on pourrait le traduire par « j'ordonne », « je commande ». Et donc, ce n'est pas une proposition, une suggestion que Paul fait au verset 8 en disant « je veux donc que les hommes prient en tout lieu ». Et en tout lieu, ça signifie, dans le contexte où Paul utilise cette expression ailleurs dans ses épîtres, c'est l'assemblée qui se réunit à différents endroits. C'est comme, on sait que Timothée était à Éphèse, c'est là-bas qu'il exerçait son ministère. Alors, c'est comme si Paul il disait « peu importe où vous êtes réunis à Éphèse », en tout lieu, quand vous êtes réunis en assemblée, je veux et je commande que ce soit les hommes qui conduisent l'assemblée dans la prière. Or, le monde, il pourrait s'élever puis nous dire, mais vous êtes misogyne, c'est quoi? Vous êtes dans le passé avec votre façon de penser. Je crois que le monde dirait ça aujourd'hui, mais rappelons-nous que c'est la parole autoritaire de Dieu. C'est tout. Et que, de toute façon, on sera constamment appelé à aller contre le courant de ce monde si nous voulons marcher et plaire à Dieu. Croyez-vous que Dieu se trompe dans son plan et sa façon de faire les choses? Pas du tout. Pas du tout. Et je crois qu'il fait toutes choses belles et sa structure d'assemblée, telle que le Seigneur lui-même l'a développée, elle est excellente, elle est parfaite. Et je suis persuadé que hommes et femmes trouveront leur pleine satisfaction spirituelle dans leur cœur en obéissant au Seigneur. Voilà ce que Paul exprime. « Je veux donc ». Et là, nous arrivons au verset 9 qui débute tout simplement sans verbe, mais en disant « de même aussi que les femmes ». Où est le verbe? Bien, le verbe, c'est le même verbe qui est dans le verset précédent. C'est simplement que Paul ne l'a pas répété, ce qui nous indique qu'on doit comprendre que c'est aussi quelque chose qu'il veut. Nous pourrions suppléer à ce verbe en disant dans le verset 9, « De même aussi, je veux que les femmes. » Donc, le verbe « vouloir » s'applique non seulement à la prière, mais aussi à ce qui va suivre sur son enseignement concernant la femme dans l'assemblée. De la même manière aussi, c'est-à-dire, il y a autre chose que je veux et que je commande pour qu'il soit mis en pratique dans les assemblées. Et croyons au plan parfait de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il veut concernant la femme? J'ai mentionné trois points, et c'est ainsi qu'on va les regarder dans les versets 8 à 10. Premièrement, il parle de la tenue de la femme. Et le rôle sera dans les versets 11 à 14, et puis finalement le témoignage dans le verset 15. Relisons les versets 9 et 10 pour avoir le texte très présent à l'esprit. Donc, de même aussi, et je supplie le verbe, « Je veux que les femmes se parent d'un costume décent avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d'or ou de perles ou d'habits somptueux, mais par de bonnes œuvres, ce qui est sié à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Je crois que c'est très évident qu'il parle de l'apparence extérieure de la femme. Êtes-vous d'accord? Je veux dire, et regardez tout ce qu'il parle là-dedans. Il parle avec des termes, c'est très, très clair. Un costume, ça c'est un peu particulier comme traduction. Il faut dire que ça date quand même aussi. Maintenant, Darby a pris soin de mettre une note de bas de page qui dit la tenue. Et je crois que ce serait plus moderne, plus juste aujourd'hui de l'écrire comme ça. Mais une tenue décente, il parle de non pas de tresses, d'or, de perles, d'habillement somptueux. De quoi il parle exactement? Je trouve ça intéressant que le verbe « se pare », le verbe « se parer ». Je ne sais pas c'est quoi votre compréhension de ce verbe-là. Moi, je dois vous admettre qu'en français, je suis encore en train d'apprendre. C'est ma langue. Je ne suis pas anglophone. Je suis francophone. Mais mon historique francophone, il est terrible. En réalité, j'ai appris à lire et à découvrir la grammaire française à travers le grec du Nouveau Testament. J'ai commencé à apprendre le grec alors que je ne savais même pas encore correctement le français. Alors, c'est à travers plutôt une autre langue que j'ai découvert ma propre langue. Et puis, maintenant, aujourd'hui, je me pose encore des questions. Mais quand je vois en grec le verbe qui est utilisé là pour se parer, c'est le verbe « cosmein », duquel vient le mot français « cosmétique ». Cosmos, même. Et donc, qu'est-ce que ce mot évoque, cosmos, cosmein? Il évoque un arrangement quelconque. Le cosmos, c'est l'arrangement de l'univers par Dieu. C'est comment Dieu a arrangé les choses. Donc, quand Paul, il parle de la femme qui va se parer, on pourrait le traduire, peut-être de façon un peu rude, mais s'arranger. De quelle façon elle s'arrange, la femme? Et vraiment, ce serait cohérent avec le sens du terme original. Et puis, il va ajouter, comme pour faire encore plus de poids, comment elles doivent s'arranger elles-mêmes. Eh bien, dans les mots que Darby a traduits, c'est d'un costume décent. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot décent, c'est encore cosmos. Donc, elle doit s'arranger d'une manière bien arrangée. Ça serait un peu le jeu de mots qu'on pourrait faire pour comprendre le jeu de mots que Paul fait là-bas. En réalité, ce costume décent, il parle d'un habillement approprié. C'est ce qui est approprié. Il y a quelqu'un qui m'a dit en Suisse, il y a à peu près un mois, au début, quand je venais d'arriver, dans une assemblée, quelqu'un qui m'a dit, « Chez vous, là, est-ce que vous osez dire aux femmes de s'habiller correctement? » Et ça m'a étonné un peu comme question, parce que je me suis dit, c'est vrai que ça m'a comme ramené 25 ans en arrière. Et puis, c'est vrai qu'à chaque année, au printemps, c'était systématique au printemps. Pourquoi? Parce que les manteaux disparaissent et puis les tenues plus légères arrivent au printemps avec la température plus clémente, surtout au Québec. Alors, il y avait toujours une prédication autour du mois de mai, par là, qui encourageait les chrétiens, et en particulier les sœurs, à faire attention à leur habillement. Puis, je me rappelle quand on parlait de ça, les premières fois, on se disait, bien, ça a du sens. La parole de Dieu en parle, et puis ce texte-là en parle aussi de faire attention. Mais, à un moment donné, il y a des gens, des chrétiens qui ont commencé à dire, c'est légaliste! C'est légaliste! Arrêtez de dire à la femme comment s'habiller, elle est libre, elle peut s'habiller comme elle veut. Et puis, lentement, comme ça, gentiment, les prédications sur l'encouragement à une tenue vestimentaire qui honore le Seigneur ont disparu. Et franchement, aujourd'hui, parfois, je trouve que certaines sœurs dans les assemblées ne s'habillent pas du tout de façon correcte. S'il y a quelque chose, même, on s'expose énormément. Vous savez que dans la société dans laquelle on vit, on voit des sœurs, pas des sœurs, des femmes qui mettent en valeur leur corps. Et plus tu t'exposes, plus tu es dans le vent aujourd'hui. Et puis, malheureusement, on voit ça dans des assemblées. Bon, c'est pas toutes les assemblées, heureusement, merci Seigneur, mais voilà, ça cause des difficultés. Les hommes, là, ils sont sensibles au regard. Le plus gros combat des hommes, il est sexuel. Si les femmes, vous ne saviez pas ça, il est temps que vous le sachiez. Parce que chez les hommes, c'est probablement le combat le plus lourd qu'ils ont apporté comme chrétiens. La femme a beaucoup moins à lutter avec les pensées sexuelles, mais les hommes ont énormément lutté. Puis, si un homme vous dit « moi, je ne lutte pas avec ça », il est probablement menteur ou il n'a pas compris encore ou reconnu sa propre nature. C'est pas vrai. Les hommes, tous les hommes, sans exception, ont à lutter avec ça. Puis, les hommes matures, spirituels, ils vont se donner les façons de résister, de se détourner les regards. Mais des sœurs qui s'exposent dans des tenues qui ne sont pas appropriées, elles tendent un piège à leurs frères sans même le savoir. Et puis, regardez dans les bibliothèques chrétiennes, dans les librairies chrétiennes aujourd'hui, la quantité de livres écrits sur le sujet. Si on écrit tellement là-dessus, c'est parce qu'il y a un réel problème. Et puis, je me dis, c'est un bon encouragement de donner peut-être de sœur à sœur, de dire, d'encourager, de se vêtir de façon appropriée. J'aime vraiment ce qui est dit en disant, d'un costume décent, un habillement approprié. dans un camp chrétien, une fois, même une jeune fille que je me rappellerai toujours, qui était vraiment mal habillée, si on peut dire, vraiment une tenue qui était incroyablement, qui exposait beaucoup son corps. Puis, on en avait parlé avec les responsables, avec un groupe de jeunes le soir. Puis, tu sais, les jeunes de 15-16 ans qui disaient, « Elle a un beau corps comme ça, il faut le mettre en évidence. » Puis, il y a un frère sage qui a dit, « La façon dont tu t'y prends pour attirer quelqu'un va déterminer le genre de personne que tu attires. » Puis ça, j'avais trouvé ça génial, parce que c'est vrai que les jeunes femmes avaient besoin d'entendre ça puis de se faire dire « Attention, parce qu'en t'exposant comme ça, c'est le genre de personne que tu vas attirer. » C'est des gens qui sont que attirés par l'aspect physique et extérieur. Donc, tu vas avoir beaucoup de peine à savoir s'ils s'intéressent vraiment à toi pour une autre raison ou une raison qui est bonne. Alors, vois que ça a été écrit il y a 2000 ans, ça. Pourquoi il écrit ça? Parce qu'il s'est dit, « Oh tiens, je vais parler de la femme. » Qu'est-ce que je pourrais bien dire au sujet de la femme? Parlons de sa tenue vestimentaire. C'était déjà un problème à l'époque. Et ça reste que ça a toujours été un certain problème quand les sœurs prennent trop de liberté dans leur façon de s'habiller et qu'elles exposent beaucoup trop leur corps. Ça crée des tentations et des occasions de chute et des détournements de pensée aussi. Alors, et puis pour soi-même aussi, c'est certainement pas ce qui doit être mis en valeur. Vous savez, on pourrait dire, et il y a des gens qui disent, « Oui, mais Paul, on le sait, Paul, il était misogyne. Il avait de la peine avec les femmes, ce gars-là. Puis, c'est pour ça qu'il écrit des choses pareilles. » Bien, si vous tournez avec moi bien brièvement dans la première épître de Pierre, vous allez voir que Pierre, qui était marié, hein, puis Paul aussi était probablement marié, puisqu'il était pharisien et que apparemment les pharisiens devaient être mariés pour être pharisiens. Mais ça se peut que sa femme soit morte entre-temps, je ne sais pas trop, mais Paul semble dire à un moment donné qu'il n'a plus de femme. Alors, c'est un peu compliqué sa situation. Quoi qu'il en soit, Pierre, on le sait, avait une femme. Et puis, voici ce qu'il enseigne dans 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 5. Vous allez voir que les apôtres de notre Seigneur ont la même pensée. « Pareillement, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leur femme, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte, vous dont la parure, voyez, il parle exactement comme Paul, vous dont la parure ne doit pas être une parure extérieure qui consiste à avoir les cheveux tressés et à être paré d'or et habillé de beaux vêtements, mais l'homme caché du cœur, et ça c'est une façon de dire l'Esprit Saint en vous, hein, l'être intérieur que vous êtes, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, car c'est ainsi que jadis se paraît aussi les saintes femmes qui espéraient en Dieu étant soumises à leur propre mari comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur de laquelle vous êtes devenus les enfants en faisant le bien, etc. Donc, on voit très bien que les apôtres enseignent la même chose. Donc, ça, c'est première exhortation, mais j'oserais dire premier commandement que Paul donne aux femmes en particulier de bien s'habiller de façon appropriée. Et puis, vous voyez qu'après, il décrit cette tenue. Qu'est-ce qui devrait ressortir de la femme? C'est pudeur et modestie. Et ce mot « pudeur » ici, il parle du respect des conventions. C'est un mot qui veut dire « respect des conventions ». Et j'oserais dire qu'une convention à respecter, c'est que les hommes sont très sensibles au regard. Et ça, c'est vrai dans toute l'histoire de l'humanité. Et donc, on fait attention de la manière dont on s'habille pour respecter les conventions et cet aspect faible qu'il y a dans la nature de l'homme mâle. Mais aussi, il parle par la suite non seulement de pudeur, mais modestie, un mot qu'il va utiliser à nouveau à la fin de l'épître, du chapitre plutôt. Et qu'est-ce que signifie modestie ici? Ça parle d'avoir un bon jugement et d'être modéré. C'est une exhortation qui a tout à fait sa place, surtout quand on voit la femme objet sexuel aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Difficile d'aller à contre-courant pour des jeunes filles qui cherchent à s'identifier, à s'afficher, à s'affirmer, mais c'est une exhortation de la parole de Dieu qui a plein de bon sens. Plein de bon sens. Et on devrait y porter vraiment une grande attention. Maintenant, est-ce que Paul ou les apôtres étaient contre les bijoux, contre le fait d'être, de bien paraître, hein, puis de, c'est une femme qui se prépare bien, qui est jolie. Voilà. Est-ce que c'est mal? Non. Je crois que ce sont des termes qu'on doit comprendre dans l'exagération, où on met que l'accent là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on met on met tellement l'accent sur l'apparence et l'extérieur. C'est donc dans le sens contraire que ce texte-là parle. Mettez l'accent sur l'intérieur, et puis que l'extérieur soit modeste, approprié, et puis voilà, on peut placer tout le reste devant le Seigneur. Mais quand il parle de tresse, il n'est pas en train de décrire spécifiquement une sorte de manière de tresser les cheveux. Et c'est une façon de parler de toutes ces coiffures extravagantes qui ont simplement pour but de nous mettre de l'avant, au-delà de ce qui est nécessaire. C'est la même chose pour les perles ou l'or dans ce passage-là, ou les habits coûteux. Ça ne veut pas dire que c'est un péché de s'acheter une blouse ou une robe de tel ou tel prix. C'est pas le point. Le point, c'est toujours de nous amener à voir où je mets l'accent dans ma vie, quand je choisis telle ou telle chose. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui nous disent, je ne suis pas encore ici, en Suisse, ça semble être moins dominant, mais chez nous, c'est hallucinant. Là. Est-ce que c'est bien de se faire tatouer ou est-ce que c'est mal? Vous savez que c'est la mode, là. Même les personnes âgées se font tatouer maintenant, là. N'importe qui se fait tatouer maintenant. Chez nous, c'est impressionnant à quel point c'est populaire, les tatous. Et puis là, les chrétiens dans l'église, les jeunes chrétiens qui se disent, « Ah, mais est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est péché? » Bon, je sais qu'autrefois, on avait l'habitude de citer un des textes dans l'Ancien Testament qui dit « Tu ne te feras pas de marque sur le corps. » Mais vous devez comprendre que c'était surtout dans un culte idolâtre. Ça n'a rien à voir avec les tatous, là. C'était surtout ça. Mais le point, c'est que c'est d'amener à réfléchir, puis dire, OK, qu'est-ce que le Seigneur en pense, lui? Parce que tu sais que ton corps, il a été racheté par Dieu. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps. Le Seigneur dit même à travers Paul dans le Corinthien que votre corps physique, pas juste votre cœur et votre âme, là, votre corps physique, il l'a racheté à grand prix. Donc, ça lui appartient, c'est à lui. Je dois lui en parler. Comment, Seigneur, je dois utiliser mon corps pour faire telle ou telle chose? Et puis, j'ai remarqué que la question était beaucoup plus difficile pour eux quand on les plaçait devant leur propre choix que de leur dire oui ou non. Parce que tu sais, quand tu fais une loi, tu as le choix de la faire ou non. C'est simple. Si tu dis non, je ne veux pas, ben, c'est soit qu'il t'obéit ou qu'il fait face à sa propre idée, c'est tout. Tu vois? Mais quand tu places devant un choix comme celui-là, comme une réflexion, une prière, parle-en au Seigneur. Qu'est-ce que lui veut que tu fasses? Ben, c'est un peu dans ce sens-là que Paul exhorte par rapport à la tenue de la femme dans ce passage. Qu'est-ce que le Seigneur en pense? C'est pas de dire l'or, c'est mauvais. Si tu as de l'or sur toi, tu es dans le péché. C'est pas du tout le point. C'est pas du tout le point. On voit d'autres passages ailleurs, d'ailleurs, qui mettent certaines de ces choses-là en valeur sans les condamner du tout. Mais voilà, c'est une réflexion. Qu'est-ce que le Seigneur en pense? Je suis pas une femme, bien sûr. J'espère que c'est clair. Mais je peux vous dire qu'avant ma conversion, je mettais tout l'accent sur mon apparence physique. Parce que moi, je n'avais aucune estime de moi-même. Et puis, je croyais que, comme j'étais moi-même, que les gens allaient toujours me rejeter. Je croyais vraiment ça. Puis quand j'étais adolescent, j'ai décidé de devenir un musicien de rock parce que je me suis dit, eux sont populaires et tout le monde les aime. Alors, j'avais les cheveux longs, blonds, c'est difficile à croire, là. J'avais vraiment une chevelure incroyable. Quand je me suis converti, j'avais 20 ans, j'ai toujours eu les cheveux très longs depuis l'âge de 7-8 ans. Puis quand je me suis converti au Seigneur, vous savez, il y a un texte qui dit « C'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux », hein? Mais ce texte-là, c'est pas lui du tout qui est venu me chercher. C'est plutôt le texte qui dit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Puis, moi, personnellement, je mettais tellement d'accent, là. Écoute, je pense que mes parents, ils auraient voulu avoir une fille, puis ils n'auraient rien souhaité de plus, parce que j'étais comme une fille qui passait tellement de temps à se peigner, puis à se préparer pour sortir, que c'était la même chose. Donc, on blaguait un peu avec ça chez nous, mais juste pour vous dire, je mettais tout l'accent là-dessus. C'était tellement important Et je me rappellerai toujours, je viens d'accepter le Seigneur, j'ai 20 ans, j'ai mes cheveux. Et puis, je suis assis sur le bord de mon lit. Puis, hein, je viens de finir, tu sais, c'est les années fin 80, là, qu'on séchait avec le séchoir à cheveux par en bas, là. Puis là, c'était épais comme ça quand tu te relevais la tête. Puis, j'étais assis sur le bord de mon lit. Puis, j'étais sauvé depuis 3 semaines. Hein. Je me regarde dans le miroir. Je me maquillais les yeux. Moi, je mettais la ligne noire sur les yeux. C'était, vous auriez pas cru me voir. Vous n'en croiriez pas vos yeux. Et puis, j'étais assis sur le bord de mon lit, puis je me regardais dans le miroir, puis je me disais, « Ouais, pourquoi je suis comme ça? » C'est pas moi. C'est pour avoir les regards sur moi, pour être populaire auprès, surtout des filles, bien sûr. Puis c'était comme ça que je pensais. Mais le Seigneur m'a montré ça, et j'ai commencé à le prier, puis à lui demander. Et c'était très difficile, parce que vous imaginez que depuis 8-10 ans, j'avais les cheveux comme ça, mais depuis l'âge d'à peu près 12-13 ans que j'avais tout mis, mes énergies, mes efforts sur comment paraître. C'est tout ce qui est important. Pas comment je suis à l'intérieur, je ne le savais même pas moi-même. C'était comment je parais. Et puis là, commencer à dire au Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est un gros exercice. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je sais de quoi je parle, même si je ne suis pas une fille. Je sais qu'est-ce que c'est que de devoir dire au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu en penses de ma façon d'être? Comment tu me vois? Comment je vois mon corps? Comment j'agis avec? Qu'est-ce que je fais avec? » Ce sont des questions qu'on doit se poser comme chrétien, puis je crois que c'est là que Paul va amener la femme chrétienne. Comment tu te tiens devant le Seigneur et devant les hommes? Alors voilà la réflexion, puis j'espère qu'on peut garder cette réflexion-là dans notre esprit. Plutôt que de voir là une série de commandements légalistes, c'est pas le point. Paul, il veut amener les sœurs et les hommes aussi, ils trouvent leur compte là-dedans. Réfléchis, puis pose-toi la question, comment tu te présentes aux hommes et qu'est-ce que tu veux que les gens voient de toi et voilà, et comment tu glorifies Dieu à travers ce que tu es et ce que tu fais. Maintenant, dans le verset 10, il y a un « mais » parce qu'il y a un contraste assez fort sur « voici faire tout pour paraître seulement » ou, avec un « mais tu vas te parer, t'arranger, tout en t'arrangeant correctement aussi, c'est bien ce que tu fais, mais surtout mets l'accent sur les bonnes œuvres comme il convient. » Et ce qui s'y est, c'est peut-être un peu vieux comme expression, mais c'est littéralement tout ce qu'il convient. C'est de ça dont les femmes devraient se parer. Tout ce qui convient à des femmes. Et là, j'aime l'expression « qui font profession de servir Dieu ». Littéralement, « qui promettent ». Le verbe ici, « faire profession », il est traduit par « faire profession », peut-être, je fais un chiffre fictif, mais juste que vous compreniez la proportion, 5 fois sur 30. Et les 25 autres fois, c'est le verbe « promettre ». C'est fondamentalement le verbe « promettre » qui est là. C'est tu, dans ta conversion, tu as promis à Dieu de faire tout pour le glorifier. Tu as promis à Dieu de faire tout. C'est ça que ça veut dire, de servir Dieu. En fait, c'est promettre la crainte de Dieu, la révérence qui est là. Tu as promis ça quand tu t'es converti. Tu allais glorifier Dieu à travers les bonnes œuvres. C'est ça que tu as promis. Est-ce que c'est ça que tu fais encore maintenant? Je crois que c'est la bonne question à se poser en tant que sœur. Puis les frères aussi vont se poser la même question. Est-ce que franchement, on glorifie Dieu comme ça à travers des bonnes œuvres et on met l'accent sur le fait de « je veux servir Dieu, je veux le craindre, je veux le révérer ». Et des fois, on dit « l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur ». Ça, c'est un verset isolé. Je peux vous dire que Dieu regarde aussi à ce qui frappe les yeux parce que Dieu en parle beaucoup dans sa parole. Dieu parle beaucoup d'apparence dans sa parole, de la manière dont on se tient, de la manière dont on se conduit, la manière dont on vit, la manière dont on s'habille. Dieu lui-même en parle. Le texte « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux », c'est simplement pour dire que l'homme, en général, met l'accent que là-dessus. Mais Dieu aussi regarde à ce qui frappe les yeux dans un sens, parce qu'il regarde à l'apparence et elle est importante et elle doit glorifier le Seigneur. Voilà tout ce que Paul dit dans ce passage sur la tenue de la femme d'une manière particulière. Un habillement approprié, en respectant les conventions, en ayant un bon jugement, non pas en mettant l'accent sur l'apparence extérieure seulement, mais en mettant l'accent sur une vie consacrée à Dieu. Deuxième point, les versets 11 à 14, là c'est l'autorité de Paul en lien avec le rôle de la femme dans l'assemblée, c'est-à-dire quand on décide de se réunir ensemble en assemblée. Qu'est-ce qu'il dit? Que la femme apprenne dans le silence en toute soumission, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, et puis Ève, et Adam n'a pas été trompé, mais la femme ayant été trompée, elle est tombée dans la transgression. OK. Regardez bien. Portez attention au texte. Il y a un « mais » là-dedans, puis je veux que vous réfléchissiez à ce qu'il veut dire. Regardez ce premier « mais ». Que la femme apprenne dans le silence en toute soumission. Regardez ce qui suit. Mais je ne permets pas à la femme. À quoi il sert le mais? D'habitude, mais, c'est pour faire un contraste entre deux choses qui souvent s'opposent. D'accord? C'est ça que ça sert un mais. Donc, habituellement, tu as quelque chose de bon, mais quelque chose de mauvais, ou tu as quelque chose de mauvais, ou quelque chose de bon, ou tu as du moins un contraste très fort entre deux idées. C'est quoi le contraste? Il vient de dire quelque chose qui nous aurait peut-être naturellement nous amené à mettre un « et » au lieu d'un « mais ». Que la femme plutôt apprenne dans le silence en toute soumission « et je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Pourquoi il dit un « mais » ? Ça, c'est la parole de Dieu dans les détails. Savez-vous pourquoi il y a un « mais » ? Parce qu'il vient de citer un privilège à la femme. Mais maintenant, il va citer quelque chose, pas qu'il lui enlève, mais une restriction. Mais il a débuté avec un privilège. Il est où le privilège? Que la femme apprenne. Ce verbe-là, je ne sais pas pourquoi, mais il est ignoré très souvent dans les prédications de ce passage. C'est un privilège de me dire, ben oui, en quoi c'est un privilège? En quoi? Il faudrait retourner à l'époque, dans la culture de l'époque, il y a 2000 ans, avec la pensée de l'époque, dans le monde de l'époque, là-bas, au Moyen-Orient. Une femme qui apprend? Non, non, non. Les hommes viennent apprendre dans les écoles. Les hommes sont au pied des grands maîtres. Les hommes sont au pied des philosophes et sont des disciples. Les femmes, non, non, elles peuvent rester à la maison, puis elles attendent là, puis c'est fini. Mais pas dans l'Église. Vous savez, on ne se rend pas compte à quel point l'Église et le Seigneur ont renversé ce qui se faisait dans la culture de l'époque. On s'en rend pas compte parce qu'on interprète le texte avec notre culture d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on passe à côté d'un point ici, là. C'est un privilège hallucinant. Ce verbe apprendre, vous savez, c'est quoi? C'est le même verbe duquel vient le mot disciple. Autrement dit, Paul est en train de reconnaître que la femme est aussi un disciple. Il est en train de dire d'apprendre la parole de Dieu. D'apprendre comme un disciple, ce n'est pas seulement le privilège de l'homme, c'est aussi le privilège de la femme. Mais par contre, pour ce qui est d'enseigner, c'est seulement l'homme. Est-ce que vous comprenez maintenant le « mais » ? C'est ce qu'il fait, ce « mais ». Il met l'accent sur le fait que la femme, elle a aussi le même privilège que l'homme au niveau d'apprendre. Mais elle doit le faire dans le silence et en toute soumission, parce qu'elle n'a pas à prendre autorité ou à enseigner la parole de Dieu dans un contexte de réunion d'assemblée, bien sûr. La femme peut enseigner dans d'autres circonstances. Paul même, dans cet épître, va évoquer quelques situations, entre autres pour entraîner de jeunes sœurs dans le Seigneur. Donc, il va évoquer d'autres situations où la femme peut enseigner, évidemment. Il y a beaucoup d'autres situations, d'ailleurs, qu'on relève à travers les Écritures. Mais quand l'Assemblée est réunie ensemble, comme Assemblée, elle peut apprendre comme tous les autres. Elle n'est pas à être mise à l'écart, au loin. Elle fait partie du rassemblement. Elle est avec les frères. Mais elle le fait en silence et en toute soumission, sans enseigner. Voilà pourquoi il y a au verset 12 ce fameux « mais » ici. Donc, oui, elle a le privilège, mais, par contre, pas d'enseigner ni d'user d'autorité ou prendre une position d'autorité sur l'homme. Vous devez comprendre que c'est dans le contexte d'assemblée dont il parle. Ça ne veut pas dire que, par exemple, une femme ne peut pas bien gouverner ou gérer dans la maison sans que l'homme soit mis de côté. Mais il y a des sœurs qui ont plus de dons d'administration, par exemple, qui peuvent exercer ce don dans un foyer. Et voilà, très souvent, si on voulait mettre les faits, c'est que très souvent même d'un point de vue spirituel, heureusement que les sœurs sont là pour éduquer les enfants dans la foi, parce que peut-être que les frères y passeraient à côté de responsabilités importantes. Ça, c'est l'histoire de l'Église confirme ça, ça a toujours été comme ça. Mais voilà, quand on parle de prendre d'autorité ici, de prendre une position d'autorité ou d'enseigner, on comprend qu'il s'agit d'enseigner la parole de Dieu. C'est même le verbe utilisé partout pour ça. Eh bien, c'est la responsabilité qui revient à l'homme. Voilà pourquoi il répète qu'elle doit demeurer dans le silence. Ça ne veut pas dire un silence absolu, dans le sens qu'il ne faudrait pas qu'elle dise « Amen » ou chanter des cantiques. Quand elle chante, quand elle dit « Amen », elle participe d'une manière corporative à l'adoration du peuple de Dieu, puisqu'elle est aussi sacrificateur. Mais pour ce qui concerne la direction dans l'enseignement, la prière, la direction spirituelle, Paul est clair là-dessus, dans ce chapitre-là. Dans la première partie, c'est la prière. La deuxième partie, c'est surtout l'enseignement de la parole de Dieu. C'est la responsabilité des frères. Savez-vous où Paul s'appuie pour dire que ce qu'il dit? Où Paul s'appuie? Il s'appuie sur le récit de la création. Il va s'appuyer sur deux points dans la création. L'ordre dans la création et la chute après la création. C'est là-dessus qu'il va s'appuyer. Donc, il s'appuie sur la parole de Dieu. Ce n'est pas le seul passage qui fait ça en passant. Très souvent, quand on parle de l'homme et la femme et de leur rôle distinct, on retourne à Adam et Ève. Pourquoi? C'est le plan original de Dieu. Mais le plan original de Dieu, vous savez qu'il n'a pas duré longtemps. Un couple, fini. Fini. Tous ceux qui vont suivre par la suite sont à côté quelque part du plan de Dieu. Voilà pourquoi quand Paul il dit « Retournons au plan idéal », il retourne dans la création. Voilà pourquoi c'est important de croire littéralement au récit de la Genèse sur la création, entre autres. Donc, il s'appuie sur l'ordre dans la création. Adam a été façonné, formé, le premier, ensuite Ève. Ça, c'est l'ordre dans la création. Donc, ça donne à l'homme l'autorité nécessaire dans le culte. C'est ça que Paul dit. Et puis, n'oubliez pas quelque chose. Autorité, ça ne veut pas dire patron ou maître d'esclave. C'est pas ça que ça veut dire, là. Ça, c'était déformé, exagéré, hein? Et puis, c'est vrai qu'il y a eu tellement de mauvais gestionnaires d'autorité chez les hommes que je peux comprendre, au moins humainement parlant, pourquoi des femmes sont révoltées un peu contre l'autorité de l'homme aujourd'hui. Mais ça, c'est des erreurs de l'homme. La parole de Dieu ne se trompe pas, elle. Et puis, on ne doit pas se baser sur les erreurs de l'homme pour tout balancer ce que la parole de Dieu enseigne. Mais voilà, c'est un ordre dans la création. C'est ainsi que Dieu a fait les choses. Et Adam n'a pas été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite. Et donc, il parle des conséquences de la chute. Si on sait dans les conséquences de la chute, on sait ce que ça a mis dans le cœur de la femme, dans le cœur de l'homme, les conséquences de la chute. Et puis voilà, Paul s'appuie là-dessus pour dire, voilà pourquoi, dans l'Assemblée, démontrons ou au moins projetons l'image d'un homme et d'une femme qui sont restaurés. Vous comprenez ce point? Vous savez qu'on est une nouvelle création ou une nouvelle créature quand on est en Christ? C'est une façon de nous dire que Dieu est en train de restaurer ce qu'il avait fait au départ. C'est probablement pour ça que les anges nous observent dans le ciel et disent « Wow! » Dans l'Église, on est en train d'assister à la restauration de l'ordre de Dieu dans la création. Peut-être dans ce sens-là que les anges sont mentionnés dans 1 Corinthiens 11, entre autres. Mais ailleurs, c'est clair. Ils sont là parce qu'ils découvrent les plans sages de Dieu à travers l'Église. Nous sommes en train de dire au monde, frères et sœurs, comment Dieu a créé et qu'est-ce qu'il a fait et que ses plans sont parfaits. Mais probablement que le monde va rire de nous. Il va nous rejeter. Mais ce n'est pas grave. On le savait que ça ferait ça. Puis le Seigneur nous l'avait averti d'avance. Alors, voici ce qui est arrivé. Il s'appuie sur les conséquences de la chute. Et là, il nous dit quand même, après avoir mentionné qu'elle est tombée dans la transgression, on sait c'est quoi ça, c'est au Jardin d'Éden. Mais, verset 15. Et là, dans le verset 15, nous arrivons avec le dernier point, le troisième et dernier point, l'autorité de Paul avec le témoignage de la femme. Et là, il y a des difficultés importantes dans ce verset-là. Mais elle sera sauvée à travers l'enfantement ou au moyen de l'enfantement. Je suis en train de lire littéralement le texte. Si elle demeure dans la foi ou la fidélité, dans l'amour, dans la sainteté, avec, et ça doit être modestie dans la Darby, oui, avec modestie, et là c'est le même mot qu'on a parlé tout à l'heure, un bon jugement, une modération, et il y a aussi une notion de contrôle de soi dans ce mot-là. De quoi il parle exactement? La femme sera sauvée en enfantant. Est-ce qu'on parle au ciel parce qu'on a accouché de tant d'enfants? Vous pensez? Savez-vous que c'est une pensée populaire, ça, dans l'Église catholique romaine? Je ne sais pas si ici ça a fait ça, mais moi, j'ai entendu ça de ma propre grand-mère. Hein? 21 grossesses, 16 enfants mis au monde. Imagine! Elle a eu 16 enfants, dont 14 vivants. Ben, les deux autres aussi ont été vivants, mais sont morts très jeunes. Et puis, j'ai entendu parfois ma mère, par exemple, dire de ma grand-mère, « Elle a gagné son ciel. » Pourquoi? Parce qu'elle a souffert de l'enfantement tellement, cette pauvre femme a gagné son ciel. Est-ce que c'est ce que Paul est en train de dire? Elle sera sauvée en enfantant? Non. Parce qu'en réalité, le verbe « sauver » a plusieurs sens dans l'Écriture. Si vous lisez une version seconde, seconde a écrit « elle sera préservée ». Et c'est le sens ici, protéger, préserver, garder. Il y a une notion de protection. Vous savez que le verbe « sauver » est parfois traduit par « guérir » dans les évangiles. C'est le même verbe que « sauver de nos péchés en Jésus ». C'est le même verbe. C'est le contexte qui indique de quoi on parle. Et ici, la femme, elle sera sauvée à travers l'enfantement. C'est simplement une façon de dire à la femme chrétienne, qu'elle sera préservée des tentations de faire comme le monde fait, si elle marche avec le Seigneur, si elle fait attention à sa tenue, si elle fait attention à sa conduite et à son cœur, et puis si elle garde la position que le Seigneur lui a donnée, elle sera préservée dans son témoignage à travers le fait d'être, par exemple, une mère au foyer et une épouse fidèle, etc. C'est en train, en fait, Paul est en train de dire à la femme, vous avez l'occasion de vous garder dans votre témoignage en ayant une conduite appropriée. Tu sais, tu peux avoir des enfants, mais tu peux avoir des enfants et avoir une mauvaise conduite aussi. Hein. C'est pourquoi il rajoute, si elle demeure. Et avez-vous remarqué que le nombre devient pluriel? Avez-vous remarqué ça? Que si elle demeure, c'est au pluriel. Elle, comme plusieurs femmes. C'est étonnant ça, parce que grammaticalement parlant, ça ne fonctionne pas. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Il parle d'une femme au singulier tout le temps, là. Il parle de Ève, après il parle de la femme, et ça doit être la femme en général, quoique certains pensent qu'il s'agit encore de Ève, mais je ne veux pas aller dans cette direction-là. Je crois que c'est la femme en général. Celle qui est tombée, c'est Ève, bien sûr, mais celle qui sera sauvée en enfantant, je pense que c'est la femme en général dont il parle. Mais regardez, elle sera sauvée au singulier si elle persévère au pluriel. Ça, c'est bizarre, ça. C'est vraiment bizarre. C'est comme si Paul, à la toute fin de son chapitre, il a donné les principes qui s'adressent à la femme, et puis à la fin, il étend cette application à toutes les femmes. C'est pourquoi je pense qu'il passe au pluriel, pour dire, voilà la façon dont la femme sera gardée, protégée, préservée, de faire comme le monde fait, de tomber dans les tentations, de faire comme le monde fait, autant pour l'habillement que pour l'attitude et la conduite. Elle sera gardée, protégée dans un contexte familial, mais faut quand même qu'elle soit fidèle, qu'elle demeure dans la foi, probablement qu'il parle de fidélité ici, peut-être de doctrine même, mais foi, c'est-à-dire fidélité, l'amour, la sainteté, trois caractéristiques d'une véritable sœur en Christ. Elle demeure dans la foi, l'amour, la sainteté. Et tout ça, elle met ça ensemble avec modestie, c'est-à-dire avec modération et bon jugement. Voilà pourquoi Paul parle du témoignage de la femme ici. Dans un sens, ça relève non seulement son rôle et sa place dans l'Église locale, mais ça l'amène aussi en dehors de l'Église, dans sa famille et puis dans la société dans laquelle elle vit. Vous êtes un témoignage, les sœurs, un témoignage dans ce monde, d'une façon de faire tellement différente. Oui, ça peut choquer le monde. Oui, on peut se faire ridiculiser de par nos positions parce qu'on veut plaire à Dieu. Mais avec douceur, en gardant le témoignage, on peut faire briller la vérité. Je crois que là, ce texte-là met l'accent sur les femmes, c'est clair. Mais c'est vrai pour les hommes aussi. Puis, il y a d'autres textes où Paul, il parle plus spécifiquement des hommes. Et en bout de ligne, nous recevons exactement toujours le même message. Oui, nous avons des rôles différents, mais nous sommes aussi des lumières, des témoins, autant des hommes que les femmes, autant les frères que les sœurs. Vous avez autant de responsabilités, chacun de votre côté. Et puis, ma prière ce soir, c'est que le Seigneur nous parle pour qu'on puisse avoir le réflexe de lui soumettre ce que nous sommes, ce que nous faisons, notre attitude, notre comportement, même notre tenue, même notre aspect physique. Comment, Seigneur, on gère tout ça? Pour ta gloire ou pour la mienne? Voilà ce qui est important à réfléchir dans ce passage. Et nous allons terminer avec la prière. Père Céleste, merci pour ce texte. Merci pour Paul qui a eu, si j'oserais dire, le courage d'écrire ça, mais c'est vrai que c'était poussé par l'Esprit de Dieu. Et puis, Seigneur, merci parce que nous avons le courage de le lire aujourd'hui, puis tu nous donnes aussi le courage de le mettre en pratique. Seigneur, sois honoré par tes enfants, par les sœurs en particulier ce soir avec ce passage que nous avons étudié, et que dans leur tenue, dans leur rôle, dans leur témoignage, nos sœurs puissent avoir vraiment une attitude qui te glorifie, Seigneur, qui t'honore, et que pour nous, aussi les hommes, que nous puissions, Seigneur, être sensibles à toutes ces questions, à toutes ces choses, afin que tu sois honoré en tout et partout. Seigneur, bénis la fin de cette soirée, garde-nous sur le retour et affermis chacun de tes enfants qui sont ici pour la gloire de Christ, nous prions. Amen.